Merci Corinne Audouin et bonne journée. Bonjour, merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dans un instant, retour avec eux sur les temps forts de la semaine avec le duel. Et puis en débat ce samedi, la démocratie à l'ère du numérique. La vie démocratique est-elle menacée par les big tech? Les algorithmes ont investi toutes les dimensions de nos vies jusqu'à ce qui fait de nous des citoyens. Et on peut parler d'usage abusif de nos données personnelles, de la manipulation politique, des opinions publiques, les exemples sont nombreux et des pratiques que nous ne pourrions que subir. Alors les algorithmes font-ils la loi? C'est le titre du dernier livre de notre invitée. Elle est docteure en sciences, elle est entrepreneure. Aurélie Jean nous rejoindra dans une vingtaine de minutes. Les algorithmes font-ils la loi? Vous saurez ça tout à l'heure.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Et pour commencer, vous vouliez revenir sur un sujet qui fait froid dans le dos. C'était il y a quelques jours à l'antenne de France Inter. Écoutez Claire Hédon, la défenseure des droits.
D'abord, je voudrais bien qu'on définisse de quoi on parle quand on parle de la santé mentale des enfants. En fait, on parle d'un état de bien-être qui permet à l'enfant de se développer correctement dans de bonnes conditions. On le comprend très bien, un enfant qui va pas bien aura des difficultés d'apprentissage, fera un adulte qui va pas bien dans une société qui ira pas bien. Et il y a effectivement urgence à agir parce que la crise sanitaire que nous traversons a aggravé la situation.
C'était donc dans un rapport publié mercredi, Claire Hédon, la défenseure des droits, dévoilait plusieurs recommandations pour aider les enfants et aider à améliorer leur santé mentale. Elle alertait sur le manque de structures en pédopsychiatrie, sur la nécessité de mieux prévenir, de mieux détecter les troubles chez les plus petits, et elle a pointé les effets du confinement, déconfinement, la dépendance aux écrans, les conséquences du harcèlement scolaire. Natacha, pourquoi vouliez-vous revenir sur ce sujet-là en particulier aujourd'hui?
Parce que c'est un sujet qui nous concerne tous, parce que ça a été une évidence aussi bien pour Gilles que pour moi, que c'est un sujet absolument fondamental et où les réponses, pour l'instant, peinent à venir. Quand on a 25 départements où il n'y a pas de pédopsychiatre, où on ne peut pas faire suivre des enfants. Aujourd'hui, le délai d'attente est tel que c'est véritablement une perte de chance. Et je crois surtout que quand on regarde un petit peu la façon dont le Covid a amplifié des phénomènes qui étaient sous-jacents, il faut s'interroger en effet sur la façon dont on a géré, j'allais dire politiquement, au sens large, les choses. C'est-à-dire, quel message a-t-on voulu faire passer aux enfants? Quand on voit des slogans diffusés sur les gestes barrières, « Je mets mon masque, je ne tue pas papy et mamie », je ne suis pas certaine que ça fasse du bien aux enfants.
En quel sens?
Les accuser d'aller tuer papy et mamie, je pense que c'est pas tout à fait une bonne idée de les accuser de risquer de tuer leurs grands-parents. Donc, je pense qu'on aurait peut-être pu réfléchir davantage à ce qu'on faisait peser sur eux. J'ajoute une chose, et on va y revenir, enfin on va creuser cette question-là sans doute, mais le rapport des enfants aux écrans, bien sûr, a toujours été quelque chose qu'il fallait observer. Là, moi, ce qui me frappe, c'est la façon dont l'éducation nationale entretient une ambivalence absolument majeure sur cette question qui amplifie les phénomènes d'addiction aux écrans que le Covid lui-même a renforcé. C'est-à-dire que l'éducation nationale ne cesse de maintenir des injonctions contradictoires, notamment sur le fait que ce serait formidable d'avoir accès aux écrans, qu'il faut que les enfants soient dessus, et on voit en permanence cette façon presque de forcer les parents à mettre des écrans dans les mains de leurs enfants, tout en déplorant ensuite qu'il y ait des addictions aux écrans. C'est quelque chose là aussi sur lequel il faudrait une réflexion beaucoup plus large des pouvoirs publics.
Gilles Finkelstein.
C'est un sujet qui est souvent occulté et qui a été cette semaine vraiment dans l'actualité, puisqu'il y a eu non seulement le rapport de la défenseure des droits Claire Hédon, il y a eu un projet de loi contre la prostitution des mineurs, il y a eu la journée contre le harcèlement, et je voudrais moi apporter une pièce supplémentaire à ce dossier, au sens où la Fondation Jean Jaurès, avec la chaire Innovation et Santé de l'ESSEC, a soutenu une étude qui a été lancée par Notre Avenir à Tous et par Hélène Roch, dont l'originalité est double. D'une part, c'est de se concentrer sur une partie de cette population.
On peut dire les préadolescents.
Les préadolescents, ceux qui ont entre 11 et 15 ans, dont on s'occupe assez peu parce qu'on considère que la crise d'adolescence, c'est un passage normal, et dont l'originalité, la deuxième originalité, est l'objet. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas intéressé à leurs opinions, mais à leur état, et notamment à leur état de santé. Et la première conclusion, et qui
et l'état de santé mentale, parce que les chiffres sont hallucinants quand on voit l'étude.
L'état de santé mentale, et le premier chiffre moi qui m'a vraiment glacé, c'est que on voit à quel point la santé des adolescents est mauvaise et est alarmante. Je vous donne juste deux chiffres. 10% de ces adolescents entre 11 et 15 ans ont déclaré avoir eu des idées suicidaires dans les 15 jours précédant l'enquête. Et 25% du total de ces jeunes, donc qui est un échantillon représentatif des 11 à 15 ans, 25% ont une suspicion de troubles anxieux généralisés. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont suffisamment de symptômes dans des questions qui sont des tests précliniques. Ils ont suffisamment de symptômes pour avoir besoin d'une évaluation clinique psychiatrique. 25%. Donc, ces chiffres-là sont saisissants et ils sont d'autant plus saisissants qu'ils vont mal, mais qu'ils ont le sentiment, pour beaucoup d'entre eux, d'aller bien. 60% de ces 25% de ceux qui ont besoin de cette évaluation, 60% disent « je vais bien » ou même « je vais très bien ». Donc comme s'ils avaient intériorisé que en fait tout ça n'était pas si grave. Donc c'est vraiment un signal d'alarme. Et puis le deuxième enseignement, et je rebondis sur ce que disait Natacha à l'instant, sur leur rapport à l'information. On voit à quel point les jeunes en général, ces adolescents en général, sont envahis par les écrans. Le total télévision, ordinateur, portable, 6h42 par jour, en moyenne.
6h42 par jour pour un gamin de 11 ans.
Mais il y a pire. Chez ceux qui ne vont pas bien, ils se replient davantage encore. Sur ces écrans, on est à 8h42 par jour. C'est-à-dire qu'ils sont engloutis là-dedans. Et je termine par là, et c'est ça un autre élément qui est très alarmant, c'est on voit à quel point ils ne sont pas seulement dans ce qu'on a appelé l'éco-anxiété, c'est-à-dire la peur
de la fin du monde.
C'est dans l'info-anxiété, ce que Hélène Rock appelle l'info-anxiété, c'est-à-dire que l'information les angoisse énormément, et on a, par exemple, la question de la violence sur les enfants est au même niveau, et c'est logique. Par exemple, il y a eu le rapport Sauvé, comment ils reçoivent tout ça? Anxiété très forte.
Et c'est parfaitement normal. C'est-à-dire, pour ma part, j'écoute France Inter tous les matins, au petit déjeuner avec les enfants, et je suis obligée de parler avec eux, parce que, par exemple, hier, il y avait en effet encore un reportage, une prise de parole sur les violences sexuelles contre les enfants. Et de fait, c'est un arbitrage compliqué quand on est parent. Il faut absolument revenir dessus pour ne pas laisser un enfant seul avec ce qu'il a entendu, mais on ne peut pas toujours et on fait ce qu'on peut. Alors en même temps, faut-il couper la radio, bien sûr. Alors les deux, je pense. Le problème est que beaucoup de familles sont désemparées et n'ont pas la possibilité, les moyens de gérer tout cela. Et l'école est encore plus désemparée. Et là, c'est plus problématique parce que ça devrait être son travail. Mais de fait, il y a énormément de professeurs qui alertent sur cela en disant à quel point, justement, ce lien entre la famille et les écoles, entre les familles et l'école est complexe, mais à quel point ils ont l'impression que des familles ne maîtrisent pas. Sur un point, par exemple, des professeurs alertent sur le fait que leurs élèves de 6e, donc on parle d'enfants de 11 ans, ont accès par des boucles Snapchat à des images, mais d'une violence, oui, mais inimaginable. Et en fait, les parents ne savent absolument pas ce que leurs enfants voient comme image en termes de violence, en termes de pornographie. Tout le problème est que beaucoup de parents ont intégré le fait que c'est comme ça et que non, ils n'ont aucune prise sur ce que regardent leurs enfants. Sauf qu'on peut se poser la question déjà de l'utilité d'un smartphone pour un enfant de 10-11 ans. Ça me semblerait légitime, mais c'est un travail qui doit être fait, que l'ensemble de la société doit mettre en avant. Tout le monde doit se poser la question de savoir comment on, non pas comment on interdit, il ne s'agit pas d'interdire, mais de construire les armes et de sortir de cette idée de fatalité, comme si c'était comme ça et qu'on ne pouvait pas faire autrement.
Et c'est vrai que l'on voit avec votre petit carnet, votre stylo, on a l'impression que vous êtes une espèce en voie de disparition, alors que Gilles, lui, est totalement accro à son iPad et à des écrans qui lui permettent de compulser des datas à n'en plus finir.
Oui, mais comme vous le constatez chaque semaine, mes petites notes sont écrites pour préparer l'émission sur du papier, avec un crayon à papier.
D'un mot,
Natacha a raison de souligner le rôle, la responsabilité des familles, des institutions en général et pas seulement de l'école. Il faut prendre cette enquête et les autres vraiment comme un signal d'alarme, et il faut surtout, je crois, c'est en tout cas l'engagement que moi je prends, en assurer le suivi en refaisant l'année prochaine une enquête du même type. Et le dernier mot que je voudrais ajouter, oui, tout dernier, c'est que il faut mesurer quelque chose qui pour nous est naturel, qui est l'environnement dans lequel nous sommes depuis 15 ans, mais qui est le seul environnement dans lequel ces adolescents ont évolué. Depuis qu'ils sont nés, crise de la dette, faillite du monde, crise terroriste, on assassine dans les salles de spectacle, on assassine dans la rue, crise sanitaire, ce que vous évoquiez tout à l'heure, ils peuvent aller tuer leurs parents et ou leurs grands-parents. Crise environnementale. C'est ça l'environnement dans lequel ils ont vécu, et je pense qu'on a sous-estimé l'effet que cela avait.
Le duel continue.
Le grand face-à-face. Le duel.
Le régime de Loukachenko instrumentalise de manière inhumaine, et je le dis ici éhonté, les flux migratoires pour tenter de déstabiliser et de désunir l'Union européenne. C'est intolérable et inacceptable. Il nous faut réaffirmer avec force notre pleine et entière solidarité à l'égard de la Pologne, comme de la Lituanie et de la Lettonie plus tôt. Il nous faut aider en plein appui des demandes des autorités polonaises à la protection de la frontière extérieure de l'Union. Aider aussi à l'accueil des personnes en besoin de protection. Maintenir une pression très forte sur les autorités biélorusses. Cela doit ouvrir la voie, Monsieur le Président, à un sixième paquet de sanctions.
Le Premier ministre Jean Castex, c'était lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale ce mardi. Et alors que la crise à la frontière polonaise s'éternise, 4000 migrants, mais des hommes, des femmes, des enfants, le mot migrant masque la réalité très simple de ceux qui vivent un enfer. Ils sont toujours bloqués dans le froid côté biélorusse. Et Jean Castex accusait la Biélorussie, vous l'entendiez, d'instrumentaliser de manière inhumaine et éhonter les flux migratoires. La crise n'en finit pas. Gilles, qu'est-ce qu'elle nous dit de l'Union européenne et de notre rapport à ces réfugiés ?
La crise n'en finit pas, mais elle n'est pas exactement de la même nature que lorsque nous en avions parlé exactement la semaine dernière ici même. On a vécu une drôle de semaine qui est à la fois une semaine de désescalade. Les dirigeants se sont parlé. Pour partie, ils ont agi. On a vu que la crise ne s'est pas déplacée comme elle aurait pu le faire sur d'autres terrains. Et notamment, Vladimir Poutine a immédiatement dit que, contrairement aux menaces de Loukachenko, la question des coupures de gaz, des tuyaux, ne se posait évidemment pas. Et même sur le terrain migratoire, elle ne s'est pas amplifiée au sens où les flux se sont, pour une grande partie, tarie, parce que il n'y a plus de vols d'un certain nombre de pays, les Émirats arabes, la Turquie, l'Irak, le Liban, vers la Biélorussie. Donc, c'est malgré tout une semaine dans laquelle les choses se sont un peu améliorées. Et d'un autre côté, c'est pour ça que je pense qu'on a tous des sentiments très mitigés, c'est une semaine d'indignation face à, et je crois que Jean Castex avait raison de le souligner, l'indignité biélorusse qui a fait venir ces migrants, mais qui, oui, sont des hommes, des femmes, des enfants qui vivent dans le froid et dans la forêt. Et ils vont jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire qu'ils les utilisent comme des armes, et ils considèrent ces armes comme des objets et non pas comme des êtres humains. Indignation devant les hésitations françaises. On a vu que par rapport à l'idée de la construction du mur polonais, il y avait eu entre les positions de Gabriel Attal qui disait on n'a pas de leçon à donner aux Polonais et celle de Clément Beaune qui disait l'Europe à laquelle je crois n'est pas celle qui hérisse des barbelés. Et enfin, une tétanie européenne collective face à ce sujet, une nouvelle fois, alors même que, en l'occurrence, on est dans une crise qui n'a rien à voir avec celle de 2015, dans laquelle il y avait des centaines et des centaines de milliers de migrants. Là, il y a quelques milliers de migrants, et je crois qu'on aurait pu s'organiser conformément à ce que sont les valeurs de l'Europe pour qu'ils aient un traitement plus humain, et conformément à ce que sont nos règles de droit, au moins pour qu'on examine leur situation.
Natacha.
Je pense que Gilles a tout à fait bien résumé ce que nous avons vécu cette semaine, avec également son lot de fausses informations, ou en tout cas de, on va dire, de manipulation, notamment par exemple de la part de d'Alexandre Loukachenko sur le rôle de l'Allemagne et les discussions entre l'Allemagne et la Biélorussie. Tout cela nous montre une chose, c'est qu'en effet le cynisme est toujours là. C'est-à-dire que même s'il y a eu une désescalade, en effet, même si Vladimir Poutine ne cesse de souffler le chaud et le froid, il y a de toute façon une forme de cynisme qui consiste surtout à essayer de diviser les Européens, et c'est tellement facile. Donc là, en l'occurrence, la fausse information de la Biélorussie, c'est consisté à dire que l'Allemagne acceptait d'accueillir 2000 migrants, les autres seraient raccompagnés chez eux, ce qui crée une espèce de défiance de la part de la Pologne vis-à-vis de l'Allemagne, et l'idée qu'on repartait sur la mécanique de 2015. Angela Merkel a immédiatement démenti. Mais ça nous raconte quoi, cette histoire? Ça nous raconte, premièrement, que Vladimir Poutine, qui malgré tout est derrière cela, est dans une phase de tension volontaire en Biélorussie, en Ukraine également. C'est-à-dire que c'est un flux et un reflux, et là actuellement en Ukraine, les mouvements de troupes aux frontières sont une façon d'expliquer que le statu quo ne lui convient pas, et son seul but étant d'avoir à ses frontières, un peu partout, des régimes qui lui permettent un tampon vis-à-vis de l'OTAN. Et il ne lâchera pas tant qu'il n'aura pas ça. Face à cela, on a une Union européenne qui a des avis divergents, et toute la question, Gilles disait, il faut un accueil humain et digne de nos valeurs. Oui, c'est vrai à ceci près que la question est de savoir quel message envoie l'Union européenne. C'est pour ça, je vais vous dire une chose, je pense que...
L'Union européenne ou la Pologne ?
Je pense qu'en matière migratoire, comme dans beaucoup de domaines, il doit y avoir, quand on fait de la politique, une différence entre ce qu'on affiche et le message qu'on envoie, notamment à des adversaires, parce que il y a des adversaires, c'est la Biélorussie, c'est Poutine, et c'est Erdogan, et c'est tous ceux qui aujourd'hui ont décidé d'utiliser les migrants comme une arme, et de la façon la plus ignoble qui soit. Donc il y a une différence entre le message qu'on envoie à ces gens, et ce que l'on fait réellement. En politique, il ne faut pas toujours dire ce qu'on fait. C'est très important.
Ce
n'est pas du cynisme de faire ça. Je pense qu'il y a eu une période
polonaise qui a un discours du gouvernement ultra-conservateur, très anti-immigration, et on peut pointer une forme de paradoxe pour un pays qui a vu beaucoup de ses citoyens migrer eux-mêmes.
Non, mais ça,
pour
c'est
aller
classique.
Et tout avenir ailleurs.
Et toute l'Europe. L'Europe aussi a été une terre d'émigration à un moment. Le problème n'est pas là. Nous sommes aujourd'hui dans une phase où l'immigration est devenue une arme pour certains dictateurs. La question est de savoir comment l'Europe ne se met pas dans les mains de ces cyniques, ce qui amplifierait la venue de gens qui vont se retrouver dans des situations abominables comme les migrants qui sont à la frontière biélorusse. Donc comment on fait pour pas amplifier ce phénomène? Eh bien, on affiche une politique qui est une politique de fermeté, ce qui n'empêche pas ensuite de mettre en place une politique humaine, mais qui n'est pas la politique officielle. Je pense qu'il faut absolument faire cela plutôt que ce que nous faisons actuellement, qui est exactement l'inverse. C'est-à-dire l'affichage d'une espèce d'impuissance, des grands discours de fermeté qu'on ne tient pas parce qu'on ne se donne pas les moyens de contrôler les frontières et parce qu'on est en permanence ambivalent. Mais le résultat, il est tout aussi ignoble quand on refuse de laisser accoster des bateaux en Méditerranée, quand on se bat pour laisser les migrants dans des endroits immondes à la charge des pays frontaliers comme la Grèce, l'Italie, je vois pas ce qu'on y gagne.
Gilles,
je crois, première chose, il faut que l'Europe s'affirme. Et vous parliez, Natacha, du cynisme qui est toujours là. Oui, l'Europe a des adversaires. Oui, le monde, et y compris nos voisins ne sont pas que des amis, et c'est s'affirmer, fermeté à la fois par rapport à la Biélorussie et donc aller jusqu'au bout des sanctions, fermeté vis-à-vis de la Russie, au moment même, on n'a pas souligné quand même, où cette même semaine, il y a des mouvements de troupes à la frontière russo-ukrainienne, au moment où la même semaine, il y a la destruction d'un satellite par un missile direct russe. Donc, fermeté. Et puis, deuxième élément, parce que tout cela nous fragilise, c'est nous rassembler en tant qu'Européens en traitant la question de l'immigration. Je l'avais déjà dit la semaine dernière, c'est vrai de la question de la frontière, c'est vrai de la question de l'asile. Donc peut-être ne faut-il pas toujours dire ce qu'on fait, mais en revanche, il faut toujours faire ce qu'on dit. Et donc, je crois que l'Europe doit faire ce qu'elle dit.
L'Europe, ou le groupe de Visegrad, auquel appartient la Pologne avec la Hongrie, la Tchéquie et la Slovaquie, qui était pour une politique de l'immigration très dure et qui refusait le principe de solidarité entre les 27 ou les 28, puisque la question se posait alors que la Grande-Bretagne était encore membre de l'Union européenne. On passe au dernier sujet.
Le grand face-à-face, le duel.
Et si la vie démocratique était aussi une question de rythme et de calendrier, l'enjeu dépasse le cercle étroit des juristes et de quelques passionnés, des spécialistes de la Constitution. Modifier le calendrier électoral pour mettre fin au cercle vicieux de l'abstention et de la défiance. Et si nous votions le même jour pour l'élection présidentielle et pour les législatives, c'est ce que propose un jeune chercheur en sciences politiques. Il est directeur de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès, Antoine Bristier. Publié une tribune dans Le Monde où il faisait cette proposition. Plutôt que de commencer par vous, Gilles, Natacha, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de fusionner présidentielle et législative pour aboutir à un meilleur fonctionnement, une meilleure respiration démocratique ?
Alors, je vais vous dire, je pense que la question institutionnelle est sous-traitée et qu'elle est pourtant extrêmement importante, mais on la fuit souvent avec cette idée que ça ennuie tout le monde, que c'est complexe, etc. Je pense que nous arrivons au bout, j'allais dire, de la déstabilisation et du massacre de la Ve République. C'est-à-dire, la Ve République en elle-même a été utile, elle a répondu à une situation et elle a réglé cette situation au moment où elle a été fondée. Petit à petit, l'époque a changé et en plus, on a déstabilisé la Ve République. Le meilleur exemple étant évidemment le quinquennat avec inversion du calendrier. Je rappelle qu'à l'époque, les rares qui disaient que c'était une stupidité se faisaient traiter de ringard. C'était moderne parce que le quinquennat par rapport au septennat, ça allait plus vite. Bon, on n'a pas réfléchi qu'en faisant ça, on amplifiait ce phénomène de disparition totale du Parlement. Donc, La réponse qui est apportée par cette tribune, en revanche, me semble insuffisante. Pourquoi ? Parce que le fait de les faire le même jour, législative et présidentielle, ne supprimera pas le problème que nous avons, qui est le fait que le calendrier du quinquennat fait que la durée d'une législature est la même que la durée d'un mandat présidentiel. Ce qui donne au président la possibilité d'avoir une majorité qui est extrêmement solide du fait du scrutin uninominal à deux tours, qui n'est pas forcément représentatif du pays, et qui est indéboulonnable. Donc, il me semble que ce qu'il faut rétablir, c'est avant tout la différence entre la durée du mandat présidentiel et la durée du mandat législatif, pour rendre au Parlement son indépendance et son existence.
Gilles, avant de passer au débat.
Oui, effectivement, la question se pose parce qu'il y a eu le quinquennat et parce qu'il y a eu l'inversion ou le rétablissement de ce calendrier avec des élections présidentielles qui précèdent les élections législatives. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui une légitimité de l'Assemblée nationale qui est une légitimité dérivée. C'est-à-dire, c'est l'élection qui arrive après et qui est simplement un vote de confirmation de ce qui s'est passé pendant la campagne présidentielle, et qu'on a une Assemblée qui a une légitimité affaiblie parce que la baisse de participation entre les deux scrutins est considérable. Ça a atteint 30 points en 2017. D'où un déséquilibre des pouvoirs qui est accentué. L'idée que défend Antoine Bristiel, après d'autres, est de faire coïncider les deux élections. Et c'est intéressant, mais simplement de réfléchir à ce que pourraient être les conséquences d'une telle réforme. Il y a un avantage technique qui est incontestable, c'est que c'est simple comme réforme, c'est compréhensible par les Français, c'est facile à faire, il faut juste une loi. Il y a un deuxième avantage, on a un bénéfice démocratique qui est certain, c'est qu'il y aura une participation plus élevée aux élections législatives, et donc plus de légitimité. Il y a un effet juridique qui est inattendu, dont personne n'a parlé, c'est que ça veut dire, si on fait ça, que s'il y a une démission du président ou s'il y a une dissolution de l'Assemblée, il faut revoter pour les deux, hein, si on veut garder la coïncidence des élections. Et enfin, je termine par là, et c'est ça qui est un peu vertigineux, et moi je pense qu'il mérite un débat plus approfondi, c'est quels seraient les effets politiques d'une telle réforme. En réalité, on voterait à l'aveugle. On voterait en même temps pour les deux scrutins. Sans doute y aurait-il moins de risques d'avoir une majorité absolue pour le président qui vient d'être élu, plus de coalition, peut-être même plus de cohabitation, mais les effets politiques sont très incertains, et donc je trouve que ça mérite un débat qui est approfondi, et si on veut aller jusqu'au bout du débat, c'est est-ce qu'il faut même aller plus loin avec un vrai régime présidentiel.
Et on aura l'occasion évidemment de revenir sur ces questions, on va continuer à parler de démocratie dans le grand face-à-face, tout de suite le débat.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks.
Give the man his hat.
The future can be seen.
All we have to run on are the images that they produce.
We see what they see.
There hasn't been a murder in 6 years. There's nothing wrong with the system. It is perfect. I agree.
Murder can be stopped.
Extrait de la bande-annonce du film Minority Report de Steven Spielberg pour introduire le débat de ce samedi sur la démocratie et la démocratie menacée par les big tech. Que reste-t-il de nos libertés et même de notre citoyenneté à l'ère numérique? Est-ce que l'emprise des algorithmes peut cesser de s'étendre sur nos vies? Usage abusif ou illégal de nos données personnelles? Manipulation politique des opinions publiques? Il suffisait d'entendre la lanceuse d'alerte Francis Hogan sur notre antenne il y a quelques jours pour mesurer les révélations accablantes sur la responsabilité et même la nocivité politique de l'empire Facebook, au moment même où beaucoup se demandaient si Facebook avait perdu le contrôle de ses algorithmes. Alors comment, et peut-on même reprendre le contrôle de nos existences, nous libérer de cette aliénation inédite et qui semble échapper à toutes les règles qui rendent possible la vie démocratique? Le grand face-à-face s'ouvre le débat avec la docteure en sciences et entrepreneur Aurélie Jean. Bonjour Aurélie.
Bonjour
et bienvenue. Vous publiez un livre passionnant, Les algorithmes font-ils la loi? C'est aux éditions de l'Observatoire. Beaucoup de questions à vous poser. On vient d'entendre un extrait de Minority Report. C'est ce qui ouvre votre livre. On est en 2054 dans la capitale américaine, Washington DC. Les autorités, pour ceux qui n'ont pas vu le film ni lu la nouvelle de Philippe K. Dick, les autorités ont développé un système qui permet de prédire les crimes et donc de permettre à la police d'intervenir pour neutraliser les criminels avant même qu'il passe à l'acte. Est-ce que c'est une bonne image pour comprendre facilement le pouvoir à venir, ou peut-être le pouvoir déjà réel, des algorithmes sur nos existences?
Oui, alors le pouvoir même existant, puisqu'en fait, comme j'en parle dans le livre, il y a un cas à la police de Los Angeles d'un outil prédictif qui a été développé à partir d'une analogie avec des modèles de prédiction sismique, à partir d'un modèle français de David Marsan. Un modèle a été développé à l'université de Los Angeles et qui a été appliqué et qui a été arrêté le 20 avril 2020, justement pour des causes de discrimination raciale et sociale. Donc ça reflète en tout cas en partie, même si le film et la nouvelle de K. Dick en fait n'est pas du tout sur les algorithmes, mais sur des prédictions liées à des personnes sur
oui,
des pouvoirs surnaturels.
Voilà.
Mais en fait, moi, je fais l'analogie avec, bien évidemment, le pouvoir de l'anticipation et de la prédiction algorithmique qui a ses limites, mais qui a aussi des pouvoirs et des opportunités incroyables.
Je reprends le titre de votre livre, Les algorithmes font-ils la loi? Ce ne sont donc plus les citoyens et leurs représentants qui la font?
Alors, quand vous dites ça vous supposez que la réponse est oui. Alors, en fait, ma réponse est...
Et votre réponse est non.
Mais encore faut-il bien faire, encore faut-il avoir les bonnes régulations, encore faut-il bien comprendre, encore faut-il bien encadrer toutes ces technologies. Et nous, les concepteurs, comment on développe ces technologies, ces algorithmes, et surtout comment on les teste. Et c'est vraiment le sujet du livre, avec le cœur du livre qui est le sujet de l'explicabilité algorithmique dont on parle énormément, et qui est important, et c'est ça le cœur, en fait, qui doit être abordé dans les régulations qui vont venir.
Et vous allez nous aider à y voir plus clair, parce que c'est vrai que beaucoup d'entre nous ont un rapport quasiment magique avec les objets numériques et donc les algorithmes qui se cache derrière les écrans. D'un mot, algorithme, définition, avant de donner la parole à Natacha et Gilles.
Très rapidement, un algorithme, c'est littéralement une séquence d'opérations exécutées selon une certaine logique, une certaine hiérarchie pour répondre à une question ou résoudre un problème. L'algorithme est très ancien parce que le raisonnement...
Une recette de cuisine.
Non, la recette de cuisine est un algorithme, mais l'algorithme n'est pas une recette de cuisine. Donc en fait, l'algorithme est très ancien parce qu'il date de l'époque d'Euclide. Le raisonnement algorithmique date de l'époque d'Euclide, 3e siècle avant notre ère. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle d'algorithme, on parle d'algorithmes numériques, ceux qui sont destinés à être implémentés dans un code de calcul pour pouvoir tourner sur un ordinateur, donc un téléphone portable par exemple, dans une application.
Natacha Polony.
Alors, peut-être pour aller un petit peu plus loin dans ces explications qui, à mon avis, sont préalables, et d'ailleurs, votre livre commence par ça, en fait. C'est-à-dire, commence par la différence entre ce que vous appelez algorithme explicite et algorithme implicite. Je me suis concentrée, mais vraiment terriblement.
C'est le chapitre un petit peu tendu.
Voilà, c'est ça. J'ai essayé. Donc, peut-être que vous pouvez aller un petit peu plus loin dans cette définition pour bien expliquer quels sont les problèmes. Pourquoi et comment naissent les biais et le fait que vous l'expliquez, le biais ne vient pas des algorithmes mêmes, mais en fait de la façon dont ils sont programmés au départ, ce qui permet déjà de comprendre comment on peut ensuite agir pour les éviter, et donc ensuite aller plus loin et nous dire justement quels seraient les moyens d'éviter ces biais et de travailler, par exemple, vous citez la question de la possibilité de, non pas de la transparence, mais de l'ouverture, c'est-à-dire de soumettre un algorithme d'une entreprise à l'ensemble des personnes qui vont essayer d'en décrypter les bugs, etc. Peut-être pouvez-vous préciser un peu les choses.
Pour revenir, on a deux grandes classes d'algorithmes, comme vous l'avez très bien dit. Alors, c'est comme ça que je les explique. Explicite, implicite. Explicite, c'est l'algorithme traditionnel qui est encore utilisé aujourd'hui, qui va être en fait de définir explicitement, nous concepteurs, la logique de fonctionnement de l'algorithme. Ça peut passer par des arbres décisionnels très simples. Si telle condition est satisfaite, alors j'applique telle action. Et puis ça peut passer par des modèles mathématiques très complexes. Et puis on a les algorithmes implicites qui, eux, sont des algorithmes dont la logique va être définie implicitement. Donc, c'est pas nous, les concepteurs, qui la définissons, mais elle va être définie implicitement par apprentissage sur un jeu de données le jeu de données définit les scénarios sur lesquels l'algorithme va devoir répondre à la question ou résoudre un problème. Partant de ce principe,
c'est comme si l'algorithme ou l'ordinateur apprenait.
Alors,
par lui-même.
Ouais, alors j'évite ce genre de termes qui sont des termes anthropomorphiques qui déforment la réalité, hein, parce qu'en fait, au final, c'est de l'algèbre linéaire et des stats, hein, mais oui, en fait, l'algorithme va créer une logique sur des jeux de données, et en fait, ce qu'il va faire l'algorithme, il va détecter des signaux répétitifs entre les scénarios pour pouvoir, justement, définir une logique de fonctionnement d'identification d'un chien sur une photo, par exemple.
Voilà, pour être concret, c'est-à-dire que, en gros, quand on découvre que, par exemple, l'algorithme de recentrage des photos de Twitter a tendance à recentrer les photos systématiquement sur les personnes blanches et à effacer du cadre les personnes de couleur, les personnes grosses, les personnes moches. Pourquoi ça arrive?
Alors, ça arrive parce qu'en fait, on a entraîné l'algorithme sur un jeu de données qui vont être des photos. Et dans ces photos, en fait, il y a sûrement un biais. C'est-à-dire que le jeu de données n'est pas représentatif de la réalité et que peut-être que dans ces photos, il y avait principalement des femmes jeunes, blanches, et beaucoup moins de personnes noires, de personnes grosses, de personnes moches. Encore faut-il définir la mocheté, hein, vous êtes d'accord, c'est quand même un sujet sensible.
Non, mais c'est une manière de définir la discrimination technologique.
Ouais, exactement. Et en fait, l'idée, c'est qu'un outil devient discriminant technologiquement, donc il va écarter une catégorie de la population de manière injuste, parce que initialement, comme vous l'avez très bien dit, Natacha, on a un biais qui va soit venir des concepteurs parce qu'ils vont définir des critères explicitement biaisés, soit parce qu'ils vont faire un choix sur le jeu de données qui ne sera pas correct. Et ça, c'est pas une fatalité. C'est ça que je veux dire. C'est ce que j'explique dans le livre. Il suffit d'appliquer les bons tests avant l'entraînement sur le jeu de données, pendant l'entraînement, et une fois que l'algorithme est entraîné, avec aussi l'extraction de la logique de cet algorithme en partie par les calculs d'explicabilité. Et ça, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour éviter de tomber dans cette politique du oups. C'est-à-dire que je vois souvent des acteurs, oups, j'ai fait une erreur, oups, pardon, on refera pas l'erreur. Non, non, non. Quelles sont vos méthodes?
Ça, c'est la ligne de défense de Mark Zuckerberg et de Facebook,
oups,
par exemple.
Ce que j'appelle la politique
après
du oups.
Cambridge Analytica, ou là, par exemple, voilà. À propos de l'attaque du Capitole, Gilles Finkelstein.
Je voudrais commencer en disant, c'est pas l'objet du livre, mais au détour d'une page, vous avez brisé un mythe. Je pense comme beaucoup de gens de ma génération, que Gary Kasparov, quand il avait été battu par l'ordinateur, par Deep Blue, avait été battu parce que l'ordinateur avait appris plus de choses, avait plus de connaissances.
Désolé,
et au détour d'une phrase, oui, vous dites non. En fait, l'ordinateur était démuni par un coup de Kasparov et il a joué un coup aléatoire. Et c'est ce coup aléatoire qui a désarçonné Kasparov. Donc, mythe brisé.
Je suis désolé.
Mais ça ouvre beaucoup de réflexions.
Si c'est on vient sur le, oui, voilà, merci, c'est surtout ça, voilà.
Si on en vient au fond du livre et au débat que vous ouvrez, vous scientifiques faites l'effort de rentrer dans la logique juridique et essayer de confronter les deux, et c'est ça qui est intéressant, et de poser la question de la nécessité d'une législation, de la nécessité et de la possibilité d'une législation sur les algorithmes. Si on part d'hypothèses optimistes, c'est-à-dire qu'on pose bien la question, et donc ce n'est pas est-ce que les algorithmes font la loi? Est-ce qu'on peut réguler les algorithmes? Mais est-ce qu'on peut, je vous cite, réguler la pratique des algorithmes? Donc si on pose bien la question, si on a des responsables politiques qui acquièrent les compétences pour comprendre le sujet, donc je pars d'hypothèses qui sont optimistes, qu'on est dans une temporalité...
On peut rêver, oui.
Je rêve jusqu'au bout. Qu'on est dans une temporalité, puisque la technique évolue très vite, la loi est lente à s'établir, qu'on réussit à résoudre ces trois problèmes-là, qui, ce n'est pas rien. Est-ce que on peut réguler ces nouveaux algorithmes, ces algorithmes implicites que vous évoquez, c'est-à-dire des algorithmes dont ceux qui les font ne comprennent pas nécessairement la logique qui les amène à un bon résultat?
Absolument.
Absolument,
et on régule les pratiques. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous développez un algorithme implicite, comme on l'a très bien dit, l'algorithme a une logique implicite, donc qui est difficilement extractable, comme ça difficilement compréhensible. Cela étant dit, on a des méthodes de calcul statistiques pour aller extraire une partie de la logique, la comprendre. Et je veux dire, c'est pas quelque chose, il faut pas être désarçonné, il faut pas avoir peur de ce genre d'approche, parce que depuis très longtemps, même dans les modèles explicites, moi j'ai appliqué des modèles mathématiques tellement complexes que je définissais localement ce qui se passait dans l'espace mathématiquement, et que globalement il y avait tellement d'intégration mathématique qu'en fait à la fin ça devient quelque chose de très très complexe à comprendre.
Mais vous êtes docteur en sciences numériques, vous êtes passé par le MIT qui est l'institution la plus prestigieuse de la recherche scientifique aux États-Unis. Quand vous écrivez qu'il y a un net décalage sur les connaissances, sur les algorithmes, sur l'intelligence artificielle entre les scientifiques, les parlementaires par exemple, et vous parlez de ce qui se joue à l'échelle européenne, les lobbyistes de toute nature, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour qu'on ait la connaissance, la compréhension de ce qui tourne dans nos machines.
Vous avez entièrement raison, mais paradoxalement, enfin, il y a quand même un effort qui a été fait, parce que moi quand je compare l'interrogatoire de Mark Zuckerberg en 2018, qui était assez catastrophique, enfin, les questions posées par les parlementaires étaient à mes yeux vraiment catastrophiques, c'est une compréhension totale de comment fonctionne cette technologie ou même le modèle économique de ces plateformes. Les auditions en fait de Frances Haugen au Parlement français, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, j'ai trouvé que les questions étaient vraiment pertinentes. Donc on a quand même déjà fait un effort, et surtout on oublie de le dire, mais le RGPD a été quand même une belle révolution, un beau succès, et il a été fait le règlement qui protège les données à caractère personnel, donc en Europe, qui a quand même été une belle révolution, qui a inspiré le texte californien, faut pas l'oublier, et qui est un texte extrêmement intéressant, qui protège et qui en même temps est assez libéral, puisqu'il va encourager la libre circulation des données à caractère personnel dans les pays de l'Union. Donc il y a vraiment un enjeu intéressant, et pour lequel le lobby n'a pas en fait le lobby, qui n'est pas forcément mauvais, je l'explique dans le livre, c'est vraiment l'idée de prendre en considération l'avis des parties prenantes. Mais comme l'a très bien dit Gilles, parce que la discipline algorithmique est une discipline qui va vite, même très vite, qui est très complexe, qui est intangible, donc c'est très différent de la data, des données, donc on peut avoir des lobbyistes en fait qui vont agir dans beaucoup plus d'opacité, avec des choses beaucoup plus qu'ils ne maîtrisent pas forcément, face à des parlementaires qui ne maîtrisent pas non plus la discipline. Donc c'est faut faire très attention à l'impact du lobby, sans parler bien évidemment des moyens mis en jeu par ces acteurs.
Gilles et Natacha veulent intervenir.
Toute petite question pour prolonger ce que vous disiez sur le RGPD. Vous dites à un moment c'est l'œuvre de l'Union européenne dont je suis la plus fière.
Avec la déclaration des droits de l'homme.
Voilà. Donc ça protège les données à caractère personnel. Vous dites l'étape d'après c'est les données à caractère non personnel. Ça veut dire quoi?
Alors j'étais très contente quand Thierry Breton l'a abordé en février 2020, parce que les données à caractère non personnel, c'est par exemple les données industrielles. Une chaîne de production en Europe, vous avez des informations qui sont collectées en temps réel pour pouvoir parfois anticiper un accident, parler de prédiction, d'anticiper un accident ou de mesurer des performances ou de voir ce qui marche, ce qui marche pas, etc. D'adapter la chaîne de production même en temps quasi réel, c'est ça qui est intéressant. Et ces données, en fait, elles peuvent sortir de l'Europe aujourd'hui. Mais ces données, c'est aussi des données sur notre savoir-faire. Il y a ça aussi dans l'artisanat. Donc je trouve que les données à caractère non personnel sont un enjeu économique énorme pour l'Europe.
Et toujours sur le RGPD, vous dites aussi à un moment qu'il y a une différence entre la législation européenne et la législation américaine. C'est la différence entre le citoyen avec sa vie privée, ça c'est le point de vue de la législation européenne. On va garantir la vie privée qui est en fait le fondement de la démocratie, aussi loin qu'on remonte dans les réflexions sur la démocratie. Déjà chez Thucydide, on a cette idée de la frontière entre espace privé et espace public et le citoyen avec sa responsabilité. Et donc ça, c'est côté européen, alors que côté américain, vous dites, là, on prend en compte le consommateur protégé des intérêts économiques qui voudraient le manipuler. Comment on sort de cette différence qui est absolument majeure et dont il me semble que c'est un enjeu important de maintenir cette conception européenne du citoyen, parce que l'enjeu dont vous parlez, c'est en fait la démocratie.
Oui,
absolument. Et vous avez entièrement raison. C'est vrai, comme vous l'avez très bien dit, en fait, le titre du texte californien, c'est le texte de protection du consommateur et non du citoyen, donc c'est très différent. Cela étant dit, en fait, ce qui se passe à l'intérieur, c'est très similaire.
CCPA,
California Consumer Privacy Act. Donc c'est des visions très différentes, parce qu'en fait, le citoyen américain est vu ici comme un consommateur dont on va défendre les intérêts. Donc je pense que c'est des visions très différentes. Il y a une loi qui va passer à l'échelle fédérale. C'est-à-dire que le texte californien qui est reconnu en Californie est reconnu dans d'autres États aux États-Unis et il y aura un texte fédéral. Et même le texte fédéral, je pense le citoyen sera l'objet central. Mais on pense toujours consommation. Même, je parle par exemple dans le livre du texte de Credit Opportunity Act de 74, où encore une fois on voit le citoyen comme un consommateur qui pourra avoir accès à un crédit. Donc c'est vraiment deux paradigmes différents. Et c'est vrai que parler davantage de citoyen, ça permettrait de remettre au cœur du sujet, la démocratie et donc la protection de la démocratie. D'ailleurs, les acteurs eux-mêmes ne parlent pas de citoyens, ils parlent d'utilisateurs.
Bien sûr. Voilà. Je prolonge ma question, j'insistais sur le fait que le citoyen est responsable.
Vous avez raison.
Vous dites que nous avons le devoir de comprendre ces outils. Mm-hmm. Ali, tout à l'heure, disait mais en fait, on a une vision magique de ces outils.
Oui.
Je veux dire, là, pour le coup, c'est...
Parlez pour moi, essentiellement.
Mais pour tout le monde. Mais arrêtons, pour tout le monde.
Tout le monde.
Donc
vous
c'est vertigineux. À quel moment on a une chance d'étendre la compréhension minimale à l'ensemble de la population, et ensuite de faire en sorte que cette compréhension débouche sur une utilisation raisonnée. Alors, et qui justement nous sorte du statut de consommateur.
Magique et passive. Parce
oui,
que
passive.
Combien
exactement.
D'entre nous appuyons sur « on accepte » sans même pas sans regarder.
Alors, plusieurs choses. Donc le fait de cocher en acceptant, j'explique dans le livre, c'est une manière, vous devez avoir confiance au texte européen pour nous protéger. Donc faut aussi avoir confiance au système. Maintenant, si on revient dans la compréhension, je dis aussi dans le livre que cette compréhension, le devoir de comprendre, va avec l'obligation des acteurs de nous expliquer. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que sans aller dévoiler ce qu'est un algorithme ou comment fonctionne l'algorithme, c'est pas le but, le fait de savoir que quand vous allez sur Facebook, quelles sont les données qui sont collectées. Moi, je peux vous expliquer, il y a plusieurs types de données qui vont être, par exemple, le type de commentaire que vous faites, avec la nature positive, négative ou neutre, le sentiment, ça peut être, par exemple, les gens vous suivez, la fréquence de posts que vous avez. Je ne connais pas les critères, mais ça peut être ça. Et puis de vous dire en retour, vous savez, il y a plusieurs types d'algorithmes qui tournent. Il y a celui qui va vous proposer des gens avec qui vous connectez, il y a celui qui va vous suggérer du contenu à regarder, et il y a celui qui va, par exemple, hiérarchiser les contenus sur la plateforme. Et donc, ça va avoir un effet sur ce que vous allez voir.
Et ça, on l'a vu aux États-Unis, des moments importants de la vie démocratique américaine.
Le fait de comprendre ça. Et du coup, si vous comprenez ça, vous comprenez ce que vous avez le droit de demander aux plateformes, comme par exemple le droit d'exiger de ne pas avoir du contenu hiérarchisé, le droit d'exiger de ne pas être targeté avec du contenu. Vous pouvez
C'est-à-dire ciblé.
Pardon, ciblé. Et dans ce genre de choses, en fait, peut permettre, sans aller comprendre les mathématiques sous-jacentes des algorithmes, de comprendre en fait les droits qu'on a par rapport aux données. Les gens ne savent pas quelles sont les données qui sont collectées.
Non.
Bien sûr. Voilà. Moi, j'ai vu sur Twitter récemment le truc changer. J'ai pas les mêmes contenus qui s'affichent. Je ne sais absolument pas pourquoi. Et je ne retrouve rien et je ne comprends
rien. Je vais
vous
dire, Natacha,
ce qui m'est proposé. C'est tout.
Moi, je pense que c'est un différenciateur économique. C'est-à-dire que moi, dans mes deux mois, dans ma deuxième boîte, je développe un outil et j'explique.
Vous êtes entrepreneur.
Voilà.
On peut parler de cet outil que vous développez.
Donc la deuxième boîte qu'on vient de lancer avec des collaborateurs israéliens. Donc c'est une entreprise. En fait, on a développé une technologie d'IA, un ensemble d'algorithmes, qui, à partir d'une mammographie, peut détecter, localiser un signal faible d'un cancer du sein qui va apparaître plus de 2 ans. En fait, avant qu'on, enfin voilà, donc
c'est quasiment minority
report. Voilà, on arrive à détecter. Voilà, on arrive à
fondamental. Vertueux. Voilà, c'est-à-dire que vous utilisez l'intelligence artificielle pour quasiment prédire. Voilà. Un cancer à venir.
Alors, le médecin de mon équipe avec mon partenaire, donc docteur Philippe Binelouche, me dit non, c'est pas de la prédiction, Aurélie. On détecte quelque chose qui, un signal faible qui existe. Mais en effet, dans l'image des gens, on va prédire le cancer, la tumeur cancéreuse qui se voit sur une mammo 2 ans avant. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, l'idée. Et donc, tout ça pour dire que moi, j'explique comment les outils fonctionnent parce que je pense que c'est un différenciateur économique sans dévoiler le secret algorithmique, comment j'entraîne, quel type, voilà. Mais d'expliquer un minimum comment ça fonctionne, parce que je pense que c'est un différenciateur économique. Pourquoi les gros acteurs ne le font pas aujourd'hui? Parce qu'en fait, il y a tellement des enjeux économiques énormes qu'ils savent que le premier qui va faire le pas pour expliquer un minimum, il peut potentiellement perdre de l'argent, en tout cas sur un temps relativement court, et peut-être même ne pas rassurer les actionnaires. Oui. Donc je pense que l'idée, c'est que c'est là où j'explique que moi je crois en l'autorégulation, parce que je m'autorégule. Sauf qu'il va falloir aller vers une régulation de l'État et de l'Union européenne en question.
Vous croyez vraiment à l'autorégulation?
Parce que
vous posez la question d'une régulation mondiale, mais ils préfèrent payer des amendes. Quand on est Google, par exemple, on préfère payer une amende plutôt que de renoncer à ce qui fait son pouvoir d'influence sur les utilisateurs, les citoyens, les consommateurs, je sais pas comment on les appelle.
La réponse à ça, c'est qu'il faut être plus dur dans les amendes et les punitions, tout simplement.
Gilles?
Dans les modalités de régulation qui sont dans le débat public, une revendication, je trouve, de plus en plus courante est celle de la transparence. Mm-hmm. Alors, ça a été vrai sur l'algorithme de Facebook ou sur l'algorithme de Google. Ça a été vrai aussi sur l'algorithme de Parcoursup, dans les polémiques de ces dernières années. Vous distinguez la transparence de l'explicabilité.
Mm-hmm. Absolument.
C'est quoi exactement la différence? Est-ce que ça a du sens de demander la transparence des algorithmes, ou est-ce que le combat doit porter sur l'explicabilité?
Alors,
Aurélie Jean.
Deux choses. Je défends la transparence des algorithmes utilisés par l'État français quand ça concerne en fait les citoyens, une décision qui porte sur les citoyens directement, comme Parcoursup, et c'est d'ailleurs imposé depuis la loi numérique. Donc ça, c'est pour moi fondamental. Maintenant, si vous prenez les acteurs privés, dont je fais partie. Si demain vous dites il faut d'ailleurs la transparence de l'algorithme en soi ne suffit pas, il faut aussi un minimum être pédagogue pour expliquer comment fonctionnent les choses, et je pense que même c'est plus important que la transparence elle-même, mais c'est un avis personnel. Maintenant, concernant les acteurs privés. Si l'Europe exige demain que tous les acteurs privés qui déploient leurs algorithmes en Europe, donc qui font du business en Europe, publient leurs algorithmes, qu'est-ce qui va se passer? Moi en fait, je vais sûrement pas déployer en Europe, parce que ce qui va se passer, c'est que ça va favoriser les gros acteurs. Si demain un géant prend mon algorithme et prend toute
aucune des GAFA ou aucun des GAFA, je sais pas comment le qualifier d'ailleurs, le genre de ce mot,
Yel.
Aucun d'entre eux n'est européen.
Mais ça marche pas. Non, mais certes, mais s'ils veulent déployer leur outil en Europe, ils vont devoir être conformes au texte européen. Donc, la transparence n'est pas la solution, parce que ça va freiner l'innovation. Il vaut bien mieux exiger l'explicabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'imposer, de forcer les acteurs à d'appliquer, donc d'avoir des bonnes pratiques de développement et de test. Déjà, ça nous éviterait les scandales à répétition. Mais surtout, leur imposer d'appliquer les calculs d'explicabilité pour extraire une partie de la logique. Et du coup, de maîtriser un minimum la logique de leur algorithme, de pouvoir, si scandale il y a, erreur il y a, à ce moment-là, un comité d'audit peut arriver, comme ce qui se passe pour le RGPD, et de voir ce qui se passe, de confronter leurs pratiques algorithmiques à ce qu'on appellerait des bonnes pratiques, s'il n'y a pas de règles stricto sensu, roulées dans le béton, et de démontrer la bonne foi de l'acteur, parce que je ne peux pas vous assurer que moi-même, je ne vais pas faire d'erreur dans le futur. Par contre, je peux vous démontrer sérieusement que j'ai des bonnes pratiques de développement, de test, et que j'applique des calculs d'explicabilité à toutes les étapes de développement.
Natacha Polony.
Quand je vous écoute, en fait, je me pose la question de savoir si on a une chance de réussir à civiliser cet espace que sont les réseaux sociaux. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est la nouvelle agora, c'est l'espace public. Sauf que c'est un espace public qui appartient à des entreprises privées. C'est comme si nous avions décidé de construire des démocraties dans un endroit qui, en effet, n'aurait absolument de régulation d'État. Tout ça appartiendrait à du privé. On nous mettrait dans des ghettos, c'est le principe du profilage et des bulles. Et en plus, on dirait, les gens ont le droit de ne pas être responsables, ils peuvent avancer masqués dans l'espace public, c'est pas un problème, ils seront jamais responsables de ce qu'ils font. C'est-à-dire que ce sont trois points qui sont la base d'une démocratie. Comment on fait? Tout le monde me dit, les gens que j'essaie d'interroger sur cette question me disent, de toute façon, on ne peut pas garantir que les gens ne soient pas masqués sur les réseaux sociaux. C'est il faut garder le pseudonymat, etc. L'autre jour, j'entendais un grand patron qui disait, mais enfin, je ne comprends pas pourquoi on n'a jamais conçu un passeport numérique garanti par les États. Donc pourquoi il n'y a pas tout ça, et est-ce que c'est possible?
Plusieurs choses. Moi, je défends l'anonymat, par exemple, parce que même si moi je ne suis pas anonyme sur les réseaux, il y a des gens qui ont besoin d'être anonymes pour plein de raisons. Et voilà, pour...
Oui, pour se protéger, je sais qu'il y a un...
Donc l'anonymat, c'est quelque chose que je défends. Et par ailleurs, il y a déjà beaucoup de gens qui font du tort aux autres sur les réseaux sociaux qui ne sont pas anonymes. Donc si déjà on s'occupait d'eux, ce serait un grand pas. Je pense que vous avez entièrement raison. Et on est, je veux même vous dire, on est à un point de non-retour. Enfin, là, on peut pas continuer. Enfin, il faut arrêter. Et c'est d'ailleurs toute la discussion actuellement à la Commission européenne.
Il faut arrêter ou est-ce qu'on a basculé dans un monde et on ne reviendra pas
en
arrière?
Non, moi je pense qu'on peut revenir. Il suffit
de mettre... On peut revenir en arrière. Ouais.
Et c'est toute la question du DSA, de la Digital Service Act, qui est discutée aujourd'hui, enfin en ce moment par la Commission européenne, pour aller faire prendre à ces plateformes leurs responsabilités. Vous êtes des médias et vous savez pertinemment que, même on n'en parle pas beaucoup, mais les médias, enfin, ils sont reconnus comme des hébergeurs aujourd'hui. Mais en fait, si vous regardez bien, si on suit les règles, en fait, ce sont des éditeurs, vu qu'ils vont hiérarchiser le contenu qu'ils font voir.
Bien sûr.
Donc, ce sont des éditeurs,
ils refusent de prendre la responsabilité que nous, en fait, presse écrite, par exemple, radio, nous avons.
Exactement. Il y a une ligne éditoriale implicite, mais elle existe. Et donc, l'idée, c'est, il va falloir que ces acteurs prennent leurs responsabilités, mais il va falloir des lois pour ça. Pourquoi? Parce que, les enjeux économiques sont tellement énormes, gigantesques. Enfin, il y a quand même des acteurs qui ont des revenus de l'ordre d'un budget étatique. Il faut quand même se réaliser. Mais il faut pas, voilà, il faut pas jeter, l'eau avec le, c'est quoi, c'est
le bébé avec l'eau du bain.
J'ai beaucoup de mal, je me souviens plus de mes expressions idiomatiques en français. Mais, en tout cas, voilà, il faut pas faire ça parce que, ces outils sont aussi, permettent de faire beaucoup d'autres choses, de faire de la communication, de découvrir des gens, de dévoiler des idées, donc il faut juste que ces acteurs prennent leurs responsabilités et surtout qu'on sorte d'un discours hypocrite. En fait, de dire oups, c'est pas notre faute. Ah, mais pourtant, on fait vraiment ce qu'on peut. Il y a des choses à faire.
Il nous reste très peu de temps. Je vais donner la parole à Gilles, mais j'aimerais juste que vous répondiez à une question toute simple. Est-ce qu'on peut vraiment échapper à l'influence de certains algorithmes sur nos comportements? Et je parle là pour le coup de comportements de citoyens. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se libérer, s'affranchir de l'aliénation dans laquelle nous placent ces grandes entreprises, les big tech?
Alors aujourd'hui, c'est très compliqué. Alors petit détail, quand on parle d'algorithmes, on a parlé que des algorithmes de réseaux sociaux aujourd'hui. Hein.
Oui.
Mais en fait, il y en a plein d'autres. Hein. Je le dis pour pas qu'on pense que c'est que ça. Et tous les algos sur les réseaux sociaux ne sont pas mauvais. Mais oui, c'est difficile aujourd'hui. C'est difficile. Comme l'a dit Natacha, on est très vite mis dans une bulle. L'effet de bulle n'est pas une fatalité. Encore une fois, c'est voilà, ça se teste, ça se. Mais en effet, aujourd'hui, pourquoi ils laissent faire? Parce que ça renforce leur modèle économique qui est basé uniquement, principalement, sur la consommation massive, sur des temps accélérés. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Enfin, c'est une évidence. Et comment combattre ça, nous, à notre échelle individuelle? Mais c'est pas la solution. Hein. C'est le fait d'aller suivre des comptes avec lesquels on n'est pas d'accord, aller aimer, partager des comptes, des contenus avec lesquels on n'est pas d'accord. Mais vous imaginez bien après la perception des autres sur nous-mêmes. Donc c'est très
compliqué.
Mais
donc être acteur et pas simplement passif, comme le disait
Gilles.
Moi, je
vous dis, il faut être acteur, c'est si on a des lois qui sont bien faites et que les gens comprennent un minimum, parce qu'on comment ça se passe, parce que les acteurs sont dans l'obligation d'expliquer. Je peux vous dire que nous individus, on peut mettre aussi la pression sur ces acteurs. Et c'est ce que les gens parfois ont du mal à comprendre, c'est que nous sommes le talon d'Achille de ces gros acteurs.
Merci infiniment, en tout cas, Aurélie Jean. C'était absolument passionnant. Les algorithmes font-ils la loi? C'est le titre de ce livre que vous publiez aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été l'invité du Grand Face à Face cette semaine. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé l'émission. À la réalisation, c'était Marie Merrier. À la technique, Florian Dorimini. À suivre le journal de 13h.